mes amis m'ont fait une fête d'unibar. En fait, je me suis préparée. Il y a une vie après le cancer.
Bonjour à toutes et bienvenue sur Mon Corps et Moi, le podcast où l'on partage de cœur à cœur nos chemins de vie entre femmes. Je suis très heureuse de vous retrouver avec un sujet que je voulais absolument aborder ici. Mais avant de commencer, j'ai une big news. Le podcast va évoluer avec un nouveau nom. Donc profitez de ce dernier épisode sur l'histoire d'une femme et de son corps. Je reviendrai très bientôt vers vous avec le nouveau nom et une grande nouveauté.
Quand on a 30 ans et que l'on est une jeune maman allaitante, on ne pense pas à la maladie et encore moins au cancer. Alors comment imaginer vivre des chimios, des radiothérapies, une récidive, 3 mastectomies en moins de 4 ans ? Quand la vie vous embête, vous vous rapprochez de ce qui est essentiel. Le sourire de vos enfants, la présence de votre famille, les rires de vos amis, et vous savourez le fait d'être en vie, tout simplement. Mais comment garder la tête hors de l'eau quand tout semble nous faire plonger ? Comment voir la lumière au bout du tunnel quand tout est gris ? Et surtout, comment garder espoir quand tout semble insurmontable ? C'est sans tabou et avec beaucoup de générosité que Maëlle vient te raconter son parcours dans cet épisode, destiné à toutes les femmes atteintes de cancer du sein, mais aussi leur entourage, qui pourra entendre comment accompagner du mieux que l'on peut. 900 000 femmes sont atteintes de cancer du sein en France actuellement. C'est le plus répandu des cancers féminins. Cet épisode sort aujourd'hui pour soutenir Octobre Rose et inciter les femmes à se faire dépister. On sait que 90% des cancers guérissent s'ils sont détectés tôt. Bonjour Maëlle.
Bonjour Morgane.
Merci d'avoir accepté cette interview. Je suis très heureuse de t'accueillir à ce micro. Très touchée que tu acceptes de venir nous raconter ton chemin avec la maladie. On sait qu'une femme sur 8 sera touchée par un cancer du sein. Et c'est vraiment important pour moi, tu vois, d'essayer de faire ma part, ma façon. Voilà, vous donner la parole. C'était une évidence que je voulais te donner la parole à toi. C'est une idée qui m'est venue en tête il y a un peu plus d'un an. C'est ce que je te disais. Et alors voilà, je t'écoute. Déjà, peut-être pour commencer, je te laisse te présenter.
Ouais. Et bien déjà, je te remercie parce que je suis contente de témoigner. Et j'espère que mon histoire... pourra aider des femmes. Donc moi j'ai 35 ans aujourd'hui, je suis maman de 2 petits garçons, voilà, je suis mariée, j'habite à Angers, je suis commerciale dans la vie et du coup j'ai appris pour mon cancer du sein, j'avais 31 ans.
Ouais, il y a 4 ans, donc en 2019. J'ai une question, je ne sais pas si tu connais, tu as écouté des podcasts, mais je pose toujours à mes invités une note sur le bien-être corporel, donc sur une note de 1 à 10. Si tu devais aujourd'hui évaluer ta note de bien-être corporel, quelle serait-elle ?
La note de bien-être corporel, elle n'est pas évidente à donner, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on ne voit pas forcément la maladie. En maillot de bain, c'est déjà plus compliqué, et nu, c'est encore plus compliqué. Donc, on sera à 5 parce qu'on est debout et qu'on va bien, mais de se regarder, de voir le physique, c'est pas toujours évident.
Alors, je te propose qu'on vienne en 2019, justement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des examens, déjà, au départ ?
Alors, on est en avril 2019, j'accouche de mon petit garçon Gaspard, que j'allaite. Donc un mois après sa naissance, je me rends compte d'une boule dans ma poitrine. Je vais voir mon gynéco donc 6 semaines après l'accouchement, le rendez-vous classique. Il m'examine, tout va très bien. Et à la fin de l'examen, je lui dis: docteur, j'ai une boule dans la poitrine. Oh, il me dit: je vais pas vous embêter avec ça, vous allaitez, c'est bon, rhabillez-vous, on a terminé. Ok. Bon, le médecin s'inquiète pas, je m'inquiète pas. Je rentre chez moi, cette boule persiste semaine après semaine. J'ai une amie infirmière en néonat, je lui en parle, je lui dis: écoute Odeline, qu'est-ce que tu en penses? J'ai cette boule dans la poitrine, le lait, comment on fait pour se débarrasser de ça? Elle me dit: tu vas sous la douche, tu masses. Je masse en vain. Donc voilà, on arrive après courant juin, on est en déménagement avec des amis. Mon ami qui déménage parle avec sa sœur et elle parle aussi de kystes, de boules comme ça, au bras, au machin. Et je dis, ah là là, Marion, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai une boule dans la poitrine, c'est bizarre. Et elle me regarde un peu avec une tête un peu choquée en me disant, Maëlle, voyons, il faut absolument que tu consultes, c'est important. Enfin, et en fait, elle me fait peur. J'avais pas vraiment pris conscience, enfin, voilà, au pire un kyste, au pire du lait, enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, enfin, voilà, elle me dit de consulter. Donc, voilà. Donc je gamberge tout le week-end, je m'interroge et tout, lundi matin, première heure. J'appelle donc ma généraliste. J'arrive chez la médecin. Donc elle m'examine, elle me palpe. Et donc en effet, elle perçoit cette masse comme moi. Et de suite, elle me dit il faut faire une mammographie, une échographie. Et elle me prend rendez-vous directement. Donc j'ai rendez-vous le soir.
Elle est réactive.
Donc, voilà, donc super réactive. Tout de suite, elle prend les choses en main. Donc voilà, donc j'arrive dès le soir donc au centre d'examen. On me dit tout de suite bah, du coup, que je ne peux pas faire la mammographie parce que j'allaite. Donc déjà, cet examen-là, je n'ai pas pu le faire. On me fait une échographie. Donc très bien, échographie. Tout de suite, on me dit c'est bizarre, c'est atypique, mais bénin. On me dit c'est bénin. Moi, je retiens que bénin.
Ah oui, bien sûr.
C'est atypique. Quand même, on me dit, bon, on ne sait pas trop. Bon, il faut qu'on fasse une biopsie quand même. Une biopsie, bon. Donc, on me donne rendez-vous quelques jours plus tard. Je reviens, donc re-échographie, machin. Et donc, on fait cette fameuse biopsie. Donc, j'ai les résultats une semaine après. Et là, le médecin donc, qui commence à me suivre... me dit il y a des cellules qu'on n'aime pas. Il ne me parle pas de cancer, il me dit peut-être c'est du pré-cancer. Dans tous les cas, il faut qu'on enlève cette masse. Donc là, on est au mois de... Là, on est début juillet.
Et oui.
Donc, il part en congé, je pars en congé par la suite. Il me fait en août, j'opère, on enlève cette masse. Bon, moi, je ne m'inquiète pas, c'est bénin.
Ah, t'es restée suer, dans l'idée que c'était bénin. D'accord.
Ah, mais moi, c'est bénin. Moi, on me parle de bénin, c'est bénin. Et en fait, je pense que je suis crédule. Clairement, enfin, voilà, dans ma tête, j'ai 30 ans, je viens d'accoucher, ouais. La maladie, je ne connais pas trop. Alors, certes, il y a des cancers du sang dans ma famille. Ma grand-mère en a eu un à chaque sein, j'ai une tante qui en a eu un, enfin voilà, il y a quand même un terrain familial, mais ça m'inquiète pas, le médecin me dit que c'est bénin, donc je m'inquiète pas. Donc je me fais opérer fin août, et là je suis convoquée le 4 septembre, donc on est convoqué avec mon mari Richard, on y va, on est convoqué hyper tard, genre 20h, on est hyper serein, on laisse les garçons, c'est mes beaux-parents qui gardent les garçons. On y va, on rigole dans la salle d'attente, on fait un peu les cons. Bref, vraiment complètement à milieu de ce qui allait se passer. Donc le médecin nous reçoit. Et là, il a à peine fermé la porte, on est à peine assis, c'est un cancer.
Ah, c'est la première fois que tu entends le mot cancer en fait.
Donc là, c'est la première fois que j'entends le mot cancer. Je comprends pas, Richard comprend pas. On tombe des nues en fait. Là, on a pris je prends la première grosse claque de ma vie. C'est-à-dire que j'ai aucune notion de combien de temps a duré ce rendez-vous, mais dans ce temps de rendez-vous, on m'annonce que j'ai un cancer. On me parle de mots que je comprends pas. On me parle de triple négatif. On me dit des mots que j'ai jamais entendus de ma vie. On me dit que je suis en arrêt de travail. On me dit que je vais avoir de la chimio. On me dit que la semaine prochaine, je vais voir plein de médecins. On me dit qu'on va me réopérer, que je repasse un IRM deux jours après. On me dit que mes enfants vont être pris en charge par une psychologue. Enfin, en fait, là, je m'effondre. Et je comprends pas, en fait. Vraiment, je comprends pas. Et on me dit, mais là, ça, c'est, enfin, là, tu pars en traitement. Et je lui dis, mais je suis en arrêt. Maëlle, t'es en arrêt. Mais je suis en arrêt à partir de quand? Mais Maëlle, t'es en arrêt à partir de ce soir.
T'étais en congé maternité ou t'avais repris le travail?
Non, j'avais repris le travail. J'avais repris le travail un mois et demi avant. Et Et il me dit, t'es en arrêt pour un an. Et là, en fait, là, je comprends qu'en fait, là, c'est sérieux, qu'il y a quelque chose. Et en fait, on comprend pas. Donc, en fait, là, c'est le premier choc. En fait, le choc, il est pour mon mari et moi, en fait. On se prend le choc dans la tête. Donc là, première épreuve, quoi. On comprend pas ce qui se passe.
Au moment de l'annonce, après, et tu mets combien de temps à digérer les infos? Enfin, comment tu réagis, d'ailleurs? Tu cherches, parles?
Je pleure. Non, je pleure. Je pleure, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. On est anéanti, hein. On ne comprend pas. Hein. C'est une violence extrême. Hein. On a fait un revers là, on n'a pas compris ce qui s'est passé.
Tu mets combien de temps à digérer, à comprendre?
À m'en remettre, ouais. À digérer. Franchement, je crois que pendant la première semaine, sincèrement, je crois qu'il n'y a pas une minute où je n'ai pas pensé à ça. Il y a eu tout le temps, on gamberge, j'ai un cancer, qu'est-ce qui va se passer? Tac. Le mot chimio, enfin, c'est des mots qui font hyper peur, enfin, donc je sais pas, sincèrement, je sais même pas si je l'ai encore digéré d'ailleurs, donc
ouais.
C'est, tu vois, c'est les premières semaines sont quand même puis en fait tout va hyper vite, c'est-à-dire que là, à partir du moment de l'annonce, bah là il faut rentrer, et puis faut du coup chez moi j'ai mes beaux-parents avec mes garçons, enfin les garçons étaient couchés, mais il faut que je l'annonce à mes beaux-parents. Donc là, après, faut le dire à ses parents, faut l'annoncer à ses amis. Enfin, là, c'est hyper dur aussi. Ça, c'est un moment hyper compliqué. Allô, maman, ça va pas? Enfin, allô, papa, enfin, il se passe ça. Enfin, voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, déjà, nous, c'est difficile, mais en fait, on emmène tout le monde.
Eh oui.
Donc, ça, c'est hyper compliqué.
On imagine.
Donc,
pas ça.
Enfin, ouais, on est hyper choqués avec Richard. Deux jours après, j'avais encore des examens. Et nos amis nous avaient offert pour notre mariage un week-end. Et donc, deux jours après, on devait partir en week-end à Biarritz. Donc, on est parti en week-end à Biarritz. Ah. Donc, la tête, pas là. Mais au moins, on a profité. On s'est vidé un peu la tête comme on a pu, on a pris l'air et on a pris une bouffée d'oxygène avant de partir. Parce que là, direct la semaine d'après, j'ai dû avoir plus d'une dizaine de rendez-vous avec des médecins. Donc là, c'est parti. Hein. On rencontre l'oncologue, le chimio, on fait les examens du foie, on fait les TEP scans. Parce que là, il faut savoir où est le cancer et jusqu'où il est.
D'accord.
Parce que, voilà, faut savoir un peu l'étendue du dégât. Donc, pour ma part, c'était localisé. Donc, c'est un cancer infiltrant, agressif, mais localisé dans le sein. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, on me demande aussi, comme je suis jeune, j'ai aussi rencontré des gynécologues. On me fait faire une préservation de la fertilité.
Ouais.
Donc, très rapidement, on me fait faire cette préservation. Donc, ça, c'est encore quelque chose.
Oui, parce que du coup, tu as une stimulation.
Ouais, ta stimulation, exactement.
Et ponction, après.
C'est en... Ouais, ponction, sous anesthésie générale, enfin voilà. Et donc ça, l'annonce, je l'ai eu le 4 septembre. Le 25 septembre, j'ai eu la préservation de la fertilité. Et j'ai commencé le 30 septembre ma première chimio. Donc tout va hyper vite. Donc la première chimio, mon mari m'accompagne et je veux pas m'asseoir, quoi. Je veux pas y aller, je veux pas m'asseoir dans leur siège, je suis que de pleurer, je suis en panique. Et une infirmière, mais d'une gentillesse, d'une bienveillance, enfin, les infirmières sont incroyables, enfin, vraiment, j'ai un profond respect pour toutes les infirmières. Et il y a une petite dame hyper gentille qui vient me voir, elle me fait « Madame, vous avez le droit de pas vous asseoir, vous avez le droit de pas faire vos traitements, c'est pas une obligation. » Elle me fait « Par contre, j'ai vu dans votre dossier que vous avez deux petits garçons. Si vous voulez les voir grandir, va falloir s'asseoir. » Ok. Et j'ai été m'asseoir et puis c'était parti, quoi. Donc là, les traitements que j'ai eus, en fait, moi j'ai eu 5 mois de chimio, j'ai eu 2 types de chimio la première fois. C'est-à-dire que j'ai eu 4 plus grosses chimio toutes les 2 semaines. Et après, j'ai eu toutes les semaines une autre sorte de chimio. Donc, pendant 12 semaines. Donc là, je commence et très vite, les effets secondaires, la fatigue, les nausées, très impossible de gérer mon bébé qui a 5 mois à l'époque. Donc, maman est à la maison, c'est maman qui s'occupe de Gaspard. Mon aîné Arthur, qui a 3 ans et demi, il est chez mes beaux-parents pour pas qu'il me voie dans cet état. Et vite, j'arrive pas à gérer, quoi. Enfin, très vite, c'est tout est compliqué. Enfin, un repas, c'est compliqué. Je suis incapable de donner le biberon à mon bébé. Tout est hyper, hyper compliqué. Donc, ces 4 premières chimios, c'est hyper dur. Vraiment, c'est hyper dur. Après, les 12 autres sont moins difficiles. C'est de la fatigue, mais c'est moins sur du long terme. Au bout de 15 jours après la première chimio, donc la perte des cheveux, forcément. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est une étape... Waouh, c'est assez... c'est hyper dur. En tant que femme, c'est hyper dur. Moi, j'avais les cheveux aux épaules. Donc déjà, je me les étais fait couper en petits carrés. Donc les cheveux commencent à tomber. Et très vite, je ne veux plus me laver les cheveux. Je me lissais les cheveux. Je ne peux plus me lisser les cheveux. Y a des cheveux partout dans la maison.
Il y a des...
Ouais. C'est des poignées entières partout. Et en fait, il y a le monsieur que j'avais rencontré, parce que moi je voulais une perruque, hein. C'était obligé, c'était hors de question de sortir avec un foulard. Pour moi, ça écrivait « vous êtes malade, vous êtes malade ». Donc, j'avais rencontré un monsieur et tout. Et pour les perruques, le problème, c'est que... En fait, c'est comme les chaussures. Chose du 38, t'as toutes les paires que tu veux. Chose du 44, c'est plus compliqué. Moi, ma tête, en gros, c'était du 44, quoi.
Ah bon ?
Donc, j'ai pas trouvé de perruque.
Ah bon ?
Donc, j'ai pas de perruque. Et donc, ce monsieur me propose une autre solution avec une petite mèche, un foulard. Il montre comment nouer le bandeau et tout. Monsieur hyper bienveillant, enfin, formidable. Et il me dit, je vous couperai les cheveux. Donc, en fait, ce monsieur, tous les deux jours, il m'appelait. Et il me disait, est-ce que vous êtes prête ? Est-ce que vous voulez ? Non, je suis pas prête. Deux jours après, non, je suis pas prête. La fois d'après, il y avait des cheveux partout. Je commençais à avoir des trous et tout. Donc, le monsieur est venu. Il est venu chez moi. Et donc, il prend la tondeuse, quoi. Et puis, il te laisse quelques millimètres. Et c'est parti, quoi. Donc là, un coup dur de plus, en fait. Où là, tu dis, waouh, enfin...
Oui, c'est symbolique. C'est symbolique, comme tu dis, pour une femme.
Ah ouais, et puis...
C'est pas rien.
Les cheveux, c'est notre féminité, toi. On parle de cancer du sein, ton sein, c'est ta féminité.
C'est ça. Oui, c'est ça. Ça touche à deux formes de féminité.
Donc voilà. Donc du coup, je mets cette petite mèche, j'ai ce petit bonnet, j'ai ce petit foulard. Bon, j'arrive à faire quelque chose d'à peu près gérable. La petite mèche, elle est quand même de la même couleur que mes cheveux et tout ça. Et finalement, parfois, c'est même passé assez inaperçu des mamans à l'école. Ah, j'aime bien ton foulard, c'est sympa. Putain, j'arrive pas moi à le nouer. Comment tu fais ? Enfin, donc là, je me dis, ouais, je passe inaperçu, donc c'est plutôt pas mal. Donc des fois, ça a des petits côtés rassurants. Donc la chimio se passe. Donc je termine toute cette chimio le 10 février donc 2020. Le jour de l'anniversaire de mon aîné. Donc maman qui m'accompagnait à toutes mes chimios. Ma mère, elle a été mais plus que précieuse. Elle a été omniprésente. Elle m'a accompagnée sur tout. Enfin vraiment, je suis redevenue une petite fille. Hein, c'était maman et moi. Et elle a été là. Elle a été super super présente. Et donc je finis cette chimio, on fait une pause. J'ai une pause de, je crois que c'est 5 ou 6 semaines avant de commencer la radiothérapie. Et donc avec maman, on part toutes les deux à Dubaï.
Ah, super.
On part, on veut du soleil, on veut une pause. En plus, on avait un gros coup dur familial au mois de décembre. Là, on avait besoin de se retrouver, je pense aussi toutes les deux. On avait besoin d'une pause, on avait besoin d'évacuer tout ce qui s'était passé parce que, en fait, maman, elle a tout pris de face, quoi. Elle s'occupait de moi quand j'étais malade. Elle venait avec moi au chimio. Elle m'aidait pour les enfants. Donc ouais, on avait besoin d'une pause.
Elle avait besoin de prendre soin d'elle.
Ah bah ouais, elle avait besoin d'une pause aussi. Donc voilà. Après.
Vous allez à Dubaï, tu enchaînes sur la radiothérapie, du coup.
Je commence la radiothérapie, donc là, c'est toutes les semaines, la radiothérapie. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Donc là, j'ai 5 semaines de radiothérapie. Je commence tout juste. Je commence un jeudi, je crois. 3 jours après, confinement.
Ah ben oui.
Donc, je fais toute ma radiothérapie pendant le confinement. C'est-à-dire que l'endroit le plus dangereux, c'était l'hôpital. Tous les jours, je devais aller à l'hôpital. Je me prenais pour une héroïne, quoi. J'avais l'impression de risquer ma vie, d'aller à l'hôpital. Enfin, je me blâmais. C'était vraiment un sketch. Puis en plus, c'était les débuts. Puis moi, j'avais hyper peur. Je ne savais pas ce que je risquais avec le cancer. Enfin, on était tous un petit peu complètement fous.
Bien sûr.
Donc vraiment période hyper spéciale, mais en même temps, on a bien vécu ce confinement dans le sens où j'étais avec mes enfants, quoi. Oui. Et en fait, j'avais besoin d'avoir mes enfants, j'avais besoin de reprendre de l'énergie aussi avec eux. Et puis, on a la chance d'avoir un jardin. Donc, en fait, ça nous a fait du bien en fait, de se retrouver aussi pendant ce confinement. Et là, donc, sortie du confinement, dès juin 2020, première mastectomie. Donc, ça, c'était obligatoire. Donc, première mastectomie, c'est-à-dire qu'on m'a opérée et on m'a fait une reconstruction immédiate avec un muscle qu'on m'a pris dans le dos.
D'accord.
Là, ça, c'est dur. C'est dur physiquement. Je le sens encore aujourd'hui, alors que c'était
douloureux.
Il y a plus de 3 ans. Ouais, c'est une gêne aujourd'hui que je ressens. Mais on le sent toujours. Donc, et puis là, physiquement, voilà, on parle de quand même mastectomie.
C'est ça. C'est que l'annonce, même si on te le remplace, tu n'as pas vu, en fait. Ils te l'ont remplacé tout de suite dans la même opération.
Non, je n'ai pas vu parce qu'en fait, j'ai une reconstruction immédiate. Donc, cette fois-ci, tout a été reconstruit dans la foulée. Donc, je ne me suis jamais vue à ce moment-là sans sein. Et par contre, j'ai une énorme cicatrice qui va jusqu'au milieu du dos, quoi, en fait. Donc... c'est plus la cicatrice qui m'a heurtée que cette reconstruction. Mais bon, au début, t'as pas de mamelon, c'est brut hein, quand même. Hein. T'as la bosse, mais bon, c'est quand même pas... C'est très dur. C'est quand même particulier. Donc voilà. Donc là, je me fais opérer. Je commence à aller mieux. Vraiment, commence à aller mieux. La chimio commence à s'éloigner. Je commence à reprendre quand même un peu d'énergie. Et après, c'est suivi quand même beaucoup d'opérations. J'ai vraiment eu beaucoup d'opérations. En tout, j'ai dû avoir, depuis que j'ai... Enfin, rien que par rapport à ça, j'ai dû avoir 7 ou 8 opérations.
Ah oui.
Donc, entre les poses de site, toutes les reconstructions.
C'est énorme.
Donc, pas mal d'opérations. Donc, en gros, les opérations, il y en a eu quand même régulièrement jusqu'en... la dernière au mois d'avril. Mais donc du coup, nombreuses opérations pour la reconstruction. Au mois de septembre, toujours 2020, donc pareil, en consultation avec l'oncologue, donc il me palpe forcément. Donc, moi, mon cancer, c'était à droite, il me palpe forcément à gauche. Ah, il sent une petite boule. Donc, allez, c'est reparti. Échographie, biopsie, machin. Au final, c'était rien, mais en fait, on a revécu 2 semaines de stress incroyable avec mon mari. Et du coup, je fais ma vie, c'est pas ça. C'est pas possible d'être dans du stress, c'est pas possible les biopsies, c'est pas possible. Enfin, moi, le cancer, c'est pas possible. Donc, en fait, je décide aussi de faire une mastectomie à gauche. Par contre, la technique de la reconstruction avec le grand dorsal, c'est hyper difficile, c'est hyper douloureux. Enfin, voilà, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de kinés. C'est lourd quand même comme opération. Du coup, moi, je décide de faire une mastectomie, mais avec une prothèse.
Ah oui.
Donc, du coup, il m'a mis une prothèse à gauche.
D'accord. C'est toi qui as eu l'idée? C'est toi qui as voulu ça, ou est-ce qu'on te l'a suggéré?
Qui a demandé, ouais. D'accord. Non, c'est moi. J'ai dit, je veux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Je veux qu'on m'enlève aussi ce sein. J'ai trop peur en fait. J'ai trop peur parce qu'en fait, c'est ça enlève quand même dans la tête et dans l'esprit de la récidive, quoi. Donc, parce qu'après, faut vivre avec ça. Hein. Faut vivre après avec l'épée de Damoclès de la récidive au-dessus de la tête. Donc on me fait ça, on me fait cette ablation, on met cette prothèse, très bien, tout se passe très bien. Suite d'opération. Hyper simple, enfin vraiment vraiment très très bien. Donc voilà, pareil, je reprends de l'énergie. Après, en mars 2022, je reprends le travail. Donc super contente. 2022. J'ai mis, parce que j'ai eu beaucoup d'opérations, puis j'étais pas prête. Physiquement, j'étais pas prête. Donc j'ai repris en mars 2022, avec les accords des médecins, etc. Donc je reprends le travail, donc hyper content. Retour au travail, recontente de voir mes collègues, contente de retrouver les clients. Puis ça veut dire aussi qu'on tourne un peu la page.
Bah bien sûr,
tu passes à autre chose. Donc voilà, c'est retour chez les civils. Hein, donc génial. Tout va bien, je me sens hyper bien. Les examens sont bons, tout va très bien. Et j'ai une opération au mois d'avril, mais enfin une petite opération par rapport encore à la reconstruction du sein droit. Et ça cicatrise hyper mal. Ça doit cicatriser en 10 jours. Ça met 2 mois à cicatriser. Ça cicatrise hyper mal. Et sur la cicatrice, ça devient moche, ça devient granuleux, ça devient... Ah, c'est pas beau. Vraiment, je suis pas très contente du résultat. C'est pas beau. Enfin, vraiment, la reconstruction, bof. Et ça met du temps. Et au mois de juillet, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Pareil, je savais que le chirurgien était en vacances. Au mois d'août, moi, je suis en vacances. Fin août, je le montre à ma mère. Et je dis, maman, t'en penses quoi? Elle me fait, ah, c'est pas beau ton truc. Montre-le. Donc, je reprends rendez-vous avec l'oncologue. Je retourne le voir. Tout de suite, il me dit, c'est bizarre ton truc. On tente une crème. Si ça fait rien sous une semaine, on fait une biopsie. Il me parle quand même, il y a peut-être un risque de récidive. Bon, au bout d'une semaine, la crème, elle n'a absolument rien fait. On fait cette biopsie. Donc là, on est en septembre 2022. 15 septembre, on fait la biopsie. Et maintenant, je commence à les connaître un peu, les médecins. C'est-à-dire que s'ils m'appellent, je sais que ce n'est pas grave. S'ils me laissent venir à son bureau,
malheureusement, tu as de l'expérience.
Voilà. Et on avait rendez-vous. Et avec mon mari, on se rejoignait au bureau. J'appelle Richard, je lui dis, Ri, il me laisse venir. Vraiment, je te jure, ça sent pas bon. Mais non, mais attends, mais tu sais pas, arrête de t'inquiéter. Je te jure, il me laisse venir, ça sent vraiment pas bon. J'arrive du coup et il me prend rendez-vous. Richard n'est pas encore arrivé, il est un petit peu en retard. Il ferme à peine la porte. Maëlle, c'est une récidive. Et là, je m'effondre. Là, je fais non, c'est trop, c'est pas possible. Pas une deuxième fois, je peux pas revivre ça, c'est pas possible, quoi. C'est un enfer. Richard rentre dans le bureau, il me voit en pleurs, il comprend tout de suite. Et là, c'est reparti, quoi. Ça recommence une deuxième fois. Et tout recommence hyper vite. Opération, il fallait remettre un site, du coup, pour refaire les chimios. Tout va hyper vite, quoi. On recommence la chimio et là, c'est parti. Donc, il m'explique quand même que dans mon malheur, la chance que j'ai, c'est que mine de rien, en 3 ans, ça a quand même évolué. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau traitement qui s'appelle l'immunothérapie, qui se fait à Angers depuis, je crois, 3 mois à l'époque. Et apparemment, c'est révolutionnaire, ça marche hyper bien. Mais il va quand même falloir avoir de la chimio avec tout ça. Donc, la première fois, j'avais eu 2 types de chimio. Là, j'ai eu 3 types de chimio plus l'immunothérapie.
D'accord.
Donc là, je fais le rendez-vous avec l'oncologue qui m'explique du coup tout ce process d'immuno, de chimio. Et là, je m'effondre. Je dis, non, mais en fait, moi, je pensais que c'était une récidive, que ça allait être moins lourd. Et en fait, c'est encore plus lourd, quoi. Alors déjà, je fais une récidive sur un sein qui a une mastectomie. Donc, je crois que c'est 5% le risque de récidive sur un sein qui a une mastectomie. Donc, déjà, le truc est improbable. Et là, il me charge, mais... Et là, c'est incroyable. Et donc, on commence, du coup, les chimios avec l'immunothérapie au mois d'octobre, du coup, 2022. Et là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer encore plus que la première fois. C'est-à-dire que cette nouvelle chimio est encore plus dure. Elle me met à plat. Il me donne des médicaments contre les nausées qui me rendent hyper mal. Et là, c'est vraiment, c'est au début, ça va, je tiens le coup. Et en fait, je ne sais pas si c'est le cumul des doses ou c'est qu'il y a un moment, mon corps, il ne veut plus. Mais décembre, janvier, je suis à bout. Vraiment, je suis à bout. Je leur dis, j'en peux plus, il faut arrêter. Enfin, arrêter ou diminuer les doses, ça va être quelque chose, j'en peux plus, je ne supporte plus. Et ils me disent, bah, madame, la prise de sang, elle est bonne. Hein, les globules blancs, ils sont bons. Hein, on continue. Et puis, hop, ils remettent la piqûre. Et c'est un enfer, en fait.
Tu dis stop et tu ne te sens pas écouté dans ces cas-là, en plus. Donc.
Ah ben non, mais ben tu peux pas, en fait. Mais après, heureusement qu'ils nous écoutent pas, parce qu'on est plus lucide, en fait, dans ces moments-là. On n'a plus notre tête, hein, on est complètement à l'ouest, on est épuisé, enfin... Et ils continuent le traitement, et je termine en mars. Je termine en mars, mais j'en peux plus. Enfin, il est grand temps que la chimio se termine. Et il est vraiment grand temps que la chimio se termine. Donc là, je peux pas avoir de radiothérapie. Puisque en fait, on ne peut pas irradier un sein qui a déjà été irradié.
Ah, d'accord.
Donc, on ne peut pas continuer ça. Après, on m'explique aussi que si j'ai une récidive, c'est peut-être parce que mon corps n'avait pas bien accepté la radiothérapie, que ça n'avait pas été efficace. Enfin, bon, il y a eu un problème, en effet. Mmh. Donc, par contre, je continue quand même toutes les 3 semaines l'immunothérapie. Donc là, j'ai fait mon avant-dernière immuno mercredi et j'ai la dernière au mois d'octobre. Après, au bout d'un an de traitement, je vais enfin arrêter d'aller à l'hôpital toutes les 3 semaines. Enfin, je continuerai d'y aller, mais un petit peu plus éloignée, quoi.
Mais l'immunothérapie, t'as des effets secondaires ?
Alors, j'ai pas d'effets secondaires immédiats. Enfin, il y a de la fatigue, mais il n'y a pas d'effets secondaires immédiats comme la chimio. Où la chimio, t'as cette fatigue qui te tombe dessus, t'as les nausées, enfin, t'es vraiment très très mal, hein. C'est vraiment difficile. Là, il n'y a pas ça. Par contre, ça va être des choses à plus long terme, c'est-à-dire ça va être des problèmes d'hormones, des problèmes d'hypophyse, des problèmes de thyroïde. Enfin voilà, ça va être des douleurs articulaires, ça va être des douleurs comme ça. Mais tout de suite, enfin, t'es debout. Moi, si tu veux, à partir du moment où je suis debout, ça va. Après, par la suite, je sais pas de quoi est fait demain. Pour l'instant, tout se passe bien de ce côté-là. Mais voilà, il faut à suivre, quoi.
Et donc, comment tu vas là aujourd'hui ? On est en septembre 2023, donc 4 ans plus tard.
En septembre 2023, 4 ans plus tard, donc j'ai repris le travail là de nouveau fin août. Je suis ravie. De nouveau retour chez les civils. J'espère que cette fois c'est la bonne. Je t'avoue, je mise tout mon espoir en cette immunothérapie. Et j'espère vraiment que c'est le traitement révolutionnaire qui va faire que demain je vais aller bien et que je vais plus du tout retourner dans tous ces traitements, dans tout ce stress, dans tout ça. Après, on a toujours des stress. Ce matin, j'étais encore à passer un petit examen parce qu'il y a encore eu un petit ganglion, encore fait une biopsie, donc encore une semaine de stress. Donc en fait, pour l'instant, j'ai l'impression de pas trop m'en sortir, d'être toujours noyée là-dedans. Mais j'ai bon espoir.
Ouais.
J'ai bon espoir, je suis hyper positive et je vais bien. Et je vais bien et je reprends ma vie et je reprends mon travail et je ressors et j'ai une vie sociale et ça fait du bien, en fait.
Ouais, et c'est ce qui est chouette aussi dans ton témoignage, ce qui me semble important, c'est que quelqu'un qui en récidive de plus d'un certain nombre d'années, etc., n'aura peut-être pas le même discours parce qu'il y a l'historique et puis le temps passe, tu vois les choses. Ouais. Là, c'est vrai que finalement, toi, ce qui est important, c'est que tu reviens de reprendre le travail, mais tu as encore des soins médicaux, ta récidive, elle est quand même récente, hein. C'était il y a un an. Et ça me permet peut-être, je pourrais te poser quelques questions pour un peu comprendre, pour peut-être des femmes qui sont là en ce moment, qui le vivent, ou peut-être pour l'entourage aussi, qui ne sait pas toujours comment accompagner la personne qui est malade. Déjà, c'est... est-ce qu'il y a eu des moments heureux dans ces 4 ans ? J'imagine que oui, mais c'est quoi les moments heureux ?
Il y a eu plein de moments
heureux. Et qu'est-ce qui t'apporte du bonheur ?
En fait, il y a eu plein de moments heureux parce que, en fait, on a beau être quand même dans le mal, faut être honnête, mais en fait, il y a plein de rencontres. Moi, j'ai rencontré plein de femmes extraordinaires. Et puis, enfin, on a fait des, enfin, j'ai eu des super rencontres. Également, en fait, notre entourage. Moi, j'ai conscience d'avoir un entourage extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, et d'une présence incroyable. Enfin, voilà, ma mère qui a été mais ultra présent, mes beaux-parents qui sont occupés de mon aîné, enfin toujours un petit mot. Mon mari qui était là, des détails, mais tu vois, en chimio, ma belle-sœur, chaque semaine, elle m'envoyait un petit message avec une petite photo, et en fait, ça fait vachement plaisir. Mais mes amis, j'ai des amis incroyables, j'ai une amie, à chaque fois que j'ai appris que j'étais malade, pendant 3 mois, elle m'a envoyé une blague tous les jours pour me faire sourire, tu vois. Et c'est génial, cette même amie, le jour de mes chimios, elle m'a envoyé une vidéo de connasse, juste pour que je rigole, tu vois, pendant ma chimio. Et avec maman, on était en chimio, maman, elle m'accompagnait, on s'amusait, hein, on faisait des jeux, on rigolait. On essayait toujours de voir le positif. Certes, on est dans la merde, hein, faut le dire, enfin voilà. Mais il y a plein de côtés hyper positifs. Moi, ça a révélé des gens. Enfin, vraiment, il y a des gens que je croyais hyper proches et qu'au final, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si proches que ça. Et au contraire, il y a des gens qui se révèlent et qui sont incroyables. Avant ma première mastectomie, mes amis, elles m'ont fait une fête du Nibar.
C'est excellent. C'est quoi une fête du Nibar?
Mais c'est génial, une fête du Nibar. C'est-à-dire qu'elles m'ont fait la surprise. On s'est retrouvées au restaurant. Elles avaient plein de petits cadeaux avec des seins dessus. Enfin, même, j'étais entourée de mes amis, en fait. Parce que j'étais en plein stress et que j'étais pas bien. Et que, toi, j'ai une de mes amies, elle m'offre un bracelet avec marqué Amazon dessus. Elle m'explique que c'est des guerrières. Elles se coupent le sein pour tirer à l'arc parce que c'est des guerrières. Toi, t'es une guerrière. Enfin, en fait, c'est hyper touchant. Les gens sont vraiment... Enfin, c'est génial. Là, quand j'ai fait ma récidive, après, à la fin de ma chimio, mes amis, pareil, elles m'ont fait un petit apéro surprise. Enfin, en fait, c'est génial à l'hôpital. Donc là, au printemps, du coup, j'ai eu une mastectomie... J'ai eu 2 seins, mais j'ai eu 3 mastectomies en tout. La mastectomie, là, par contre, qui a été radicale, pour me faire sourire. Enfin, un jour, elle me fait « Ah, chiche, je vais venir te voir en panda. Ah, ça me ferait bien rire. » Elle est venue déguisée en panda. Mais c'est génial, en fait. C'est ridicule. Mais c'est drôle. C'est profondément drôle. Et en fait, c'est hyper touchant, quoi. De voir, en fait, tous ces petits mots, ou même après un examen, juste alors, ça s'est passé comment ? Enfin, en fait, ça donne plein d'énergie et c'est génial, quoi. Vraiment, c'est incroyable.
Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur ces 4 années, si quand tu regardes un peu derrière ?
Ouais, la chimio, c'est hyper dur. La chimio, c'est... la chimio, la perte des cheveux... L'annonce, c'est horrible de voir l'annonce à nos proches, aux gens qu'on aime. Parce qu'en fait, ça nous fait peur, mais en fait, on fait peur aux autres aussi. Donc, l'annonce, c'est hyper dur. La perte des cheveux, la perte des sourcils. Hein. La perte des sourcils, c'est quelque chose aussi. Hein. C'est dur. Puis, notre vie sociale, on la met quand même entre parenthèses. Après, nous, on a essayé au maximum de garder... de continuer de sortir. C'est-à-dire que j'avais plus de cheveux, je ressemblais à rien, mais il y avait des artifices avec un peu de maquillage, des boucles d'oreilles, on arrivait à avoir une tête potable. Et ben on sortait. Dès que j'avais l'énergie, je sortais. Je faisais les soirées, j'allais au resto. Le soir où je me suis coupé les cheveux la première fois, le soir, j'allais avec des amis au restaurant. Dès qu'on pouvait, on était debout. Enfin, à partir du moment où j'étais debout, on essayait un maximum. Après, je te dis pas que je rentrais pas à l'heure des poules, mais...
Ouais, mais t'y allais.
J'y allais. Dès que je pouvais, j'y allais. Par contre, il y a des fois, je pouvais vraiment pas, quoi. Il y a des fois, je suis au fond du seau, je suis au fond de mon lit et je peux pas. Mais par contre, et en fait, tout ça, ça me donne vachement d'énergie. Moi, aller faire un karaoké avec mes copines, ça fait vachement bien. Tu rigoles, tu dépenses, tout ça, c'est génial, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein, la vie de couple, c'est compliqué. Les ablations, C'est compliqué. Compliqué.
Donc c'est aussi bien la fatigue que les opérations finalement. C'est le cul
de
tout. Mais tu parles beaucoup de Richard comme un soutien pour toi, qu'il était là pour toi.
Ah ben oui. Oui, oui, Richard, il était là, mais c'était difficile pour lui aussi. Hein.
Vous arriviez à en parler, vous arriviez à communiquer sur ce que vous ressentiez, ce que vous viviez, vous arriviez à partager ça?
Je lui posais des questions. Il me répondait que pour lui, c'était peu importe, que ça l'importait peu, que c'était pas grave. Il a toujours eu un discours soutenant. Mais enfin, oui, il va me dire qu'il m'aime et que même si j'ai pas de cheveux et que même si j'ai pas de seins, et que il va me le dire. Mais tu sais que bon, il préférait une femme en bonne santé et enfin, comme avant quoi. Mmh. Et des fois, voilà, il a eu des moments délicats ou des choses. Mais ouais, non, c'est difficile.
Mmh. Mmh. C'est pas rien. Et dans ton rôle de maman, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose?
Ah, en fait, ça a été hyper dur avec... Alors, en fait, la première fois que j'ai été malade, donc Arthur avait 3 ans et demi, Gaspard avait 5 mois au moment de l'annonce. Arthur, on lui a expliqué, on a lu des livres, on a essayé de le préserver un maximum. Quand j'étais en chimio, il était chez mes beaux-parents, donc en fait, il me voyait. Il m'a jamais vu mal. Il a vu que j'avais perdu mes cheveux, par contre, je ne l'aurais jamais caché. Ils ont toujours tout vu. Les cicatrices, ils ont vu. Enfin, voilà, on a toujours tout expliqué aux garçons. Mais c'est vrai que Gaspard était bébé et du coup, on lui a pas expliqué comme on expliquait en fait à Arthur. Et je pense qu'en fait, même si c'était un bébé, en fait, même les bébés, il faut leur parler. Il faut leur expliquer. Et en fait, ça a été compliqué parce que du coup, une semaine sur deux, quand je rentrais en chimio, je ne pouvais plus du tout m'en occuper. La semaine où je récupérais un peu, c'est moi qui m'en occupais complètement. Je ne m'en occupais plus, je m'en occupais. Après, on a eu le confinement. Donc là, on a été complètement tous les quatre. Après, j'ai eu ma première mastectomie. J'ai passé 5 ou 6 jours à l'hôpital. Donc là, il ne m'a plus du tout vue. En plus, c'était post-Covid, donc il y avait zéro visite, il n'y avait rien du tout. En fait, on n'a fait que ça avec Gaspard. Mmh. On se voit, on ne se voit plus. Et en fait, ça l'a vachement perturbé. Mmh. Enfin, je l'ai vu dans son comportement. Enfin, quand je suis sortie de l'hôpital après ma mastectomie, il me faisait la gueule. Clairement, il me faisait la gueule. Mmh. C'est-à-dire que pendant un mois, il ne me regardait même pas. Mmh. Il tombait, il n'allait pas me voir. Il courait vers ma mère. Enfin, je lui donnais à manger. Il ne voulait pas que ce soit moi. Enfin, ça a été compliqué.
Il se protégeait, en fait. Lui, il se protégeait de la douleur de ne pas te voir pendant ces moments-là, en fait.
C'est ça. Oui.
Mais c'est hyper difficile pour toi d'une chose, c'est d'avoir l'amour de tes enfants. Donc.
C'est ça. C'était hyper difficile pour lui, parce qu'il n'avait pas l'amour de sa maman dont il avait besoin. C'était hyper culpabilisant pour moi, parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait faire pour mon enfant. Donc c'est compliqué. Ça a été compliqué.
Et aujourd'hui, tu sens que ça va mieux, parce qu'il y a eu moins ces phases de séparation. Il n'y a pas eu, là, sur cette récidive-là.
Bah, il y a eu, mais déjà, on a beaucoup plus parlé. Et on l'a fait autrement, et il a grandi. Et en fait, non, je pense que là, on a plutôt bien géré, entre guillemets. Il y aura forcément des petites séquelles ou des grosses séquelles, j'espère pas, mais il y aura forcément. Enfin, après, mine de, les enfants se rendent compte qu'ils sont hyper adaptables, quoi. Ils s'adaptent aux situations. Après, c'est des situations qui les font grandir aussi plus vite. Mais c'est difficile de la bouche de ton petit garçon de 3 ans qui dit « Maman, c'est bientôt fini la chimio ». Enfin, moi, mon enfant, j'ai pas envie qu'il connaisse ces mots-là, en fait. Le mot cancer, le mot chimio, en fait, c'est des mots que eux, ils connaissent comme gastro et comme grippe, quoi. Donc, ouais, ça, c'est dur. Ça, c'est des choses... Ça tord un peu.
Est-ce qu'il y a une chose que t'aimerais transmettre? Beaucoup de choses, je sais, à travers ton témoignage, mais un truc important pour toi que tu voudrais dire, formuler, au-delà de ton témoignage?
Ouais, moi ce que je voudrais dire, c'est que déjà, les femmes, il faut qu'on se fasse confiance. Si on sent qu'il y a un truc qui va pas, on sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et que, on a beau le dire à un médecin, moi le médecin, il m'a dit, je vais pas vous embêter avec ça. Si, en fait, embêtez-moi. Si, allez-y. Et c'est ça, des fois en fait, et pourtant c'est un vieux, enfin, désolé, mais c'est un gynécologue, je pense, qui est pas loin de la retraite, qui a dû en voir et en voir et en voir, et pourtant, il est passé à côté. Mmh. Et en discutant avec des femmes qui sont jeunes, il y a des femmes, je pense particulièrement à une femme, elle a dit pendant 2 ans qu'elle avait un cancer et que personne l'a écoutée. Mmh. Et en fait, on perd du temps. Mmh. C'est précieux et on perd du temps. Et ça peut s'aggraver, ça peut partir ailleurs. Il faut vraiment qu'on s'écoute et que s'il y a un médecin qui nous dit non, il faut aller voir un autre médecin. Et que tant qu'on n'a pas la certitude que c'est rien, on continue. Donc ça c'est important. Voilà, même à 20 ans, à 30 ans, il faut y aller. Après, également, ce que je voudrais transmettre, c'est que le cancer du sein, en fait, tout le monde connaît le cancer du sein, mais en fait, moi, j'ai le sentiment que c'est pas connu, en fait, le cancer du sein. Dans le sens où, oui, ça peut être une masse, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Ça peut être un sein qui est difforme, ça peut être un téton qui coule, ça peut être des vergetures, ça peut être une veine qui devient apparente. En fait, il y a plein de formes de cancer. Donc, au moindre signe, il faut consulter, il faut s'autopalper. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais aujourd'hui, on est en France, on a quand même des médecins, il y a des gynécologues, on est quand même bien entouré des sages-femmes niveau médecine. Et en fait, aussi, on a peur d'embêter. Non, je ne vais pas oser lui dire au médecin, il va dire que je suis chiante. Non, mais en fait, si, faites-le chier, on s'en fout, quoi. Et on ne le fait pas chier parce qu'en fait, c'est son job. Mais on a toujours peur de déranger. Et ça, il ne faut pas.
Et c'est ça. Et dans la manière de... Dans la manière de vivre la maladie, est-ce que tu as vécu la même façon ta récidive? Est-ce que tu as mis en place les mêmes choses? Ou est-ce que tu as changé un peu ta façon d'aborder la maladie l'année dernière?
Ouais, alors j'ai changé pas mal de choses. En fait, je me suis préparée. Vraiment, je me suis préparée. Parce que autant la première fois, c'était l'inconnu total, c'était le choc et l'inconnu. Là, c'était le choc. Mais là, par contre, on savait dans quoi on allait partir. Donc en fait, je me suis préparée. C'est-à-dire que déjà, on s'organise pour les enfants, on prépare comment on va faire à ce moment-là. Je sais que à cette période, je vais être dans le dur, il faut qu'on fasse ça. À cette période, il va se passer ça, on prépare ça. En fait, on s'est préparé également avec de l'acupuncture. Moi, je faisais de l'acupuncture à chaque veille et chaque lendemain de chimio pour la fatigue et les nausées, et ça marche hyper bien. Donc vraiment, l'acupuncture, c'est un budget. Certes, mais clairement, ça aide quand même à bien se remettre. Le sport, en fait, on m'a mis au sport aussi.
Ah, t'as fait quoi comme sport?
Le sport. Alors, avec la clinique, du coup, qui m'a opérée, donc il y avait de la marche nordique le lundi, le mercredi, c'était du renforcement musculaire, et le jeudi, du multisport.
Donc, et t'y allais à chaque fois?
Pinball. Alors, j'allais pas le mercredi parce que j'avais les garçons, mais j'allais le lundi et le vendredi. Mais c'était génial parce que tu te défoules, ça fait du bien. Et en fait, 50% des cancers peuvent être évités avec du sport 2 fois par semaine.
D'accord. Le message de fou que tu nous passes là.
Le message, c'est mettez-vous au sport, les filles. Moi, je faisais pas de sport. Ouais. Alors, le jour aussi où on m'a annoncé mon cancer en septembre 2019, on m'a dit tu vas te mettre au sport. Pardon ? Pourquoi ? Donc, c'est le sport hyper important. Okay. Et c'est génial parce que maintenant, les cliniques, la Ligue contre le cancer, les centres de cancérologie, ils ont tous ce qu'ils appellent l'activité physique adaptée, l'APA. Et en plus, c'était une jeune femme avec un sourire et une bienveillance. C'était génial, vraiment. Et c'est là qu'on rencontre aussi des gens et c'est un super soutien. Donc ça aide beaucoup. Et moi, je me suis quand même fait suivre aussi psychologiquement. J'ai fait de l'EMDR et je me suis préparée à ça. En EMDR pour enlever tout l'aspect affectif et pour pouvoir supporter tout ça, comme pour l'opération que j'ai au mois de mars. Donc là, je me suis préparée avec ça en amont.
Et pour finir, si tu voulais t'adresser aux femmes qui vivent actuellement la maladie, qui t'écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces femmes?
Qu'il y a une vie après le cancer. On a beau quand même avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et même si quand on est dedans, on ne voit pas le jour et on a l'impression qu'on ne va jamais arriver au bout du tunnel, il y a de la lumière au bout et on va y arriver. Et voilà. Donc vraiment, écoutez-vous. Il y a une vie après le cancer. Profitez de la vie et voilà. Et soyez bien entourés, quoi.
L'entourage, tu leur dis quoi?
Merci. Moi, je leur dis merci. Vraiment. C'est vraiment, c'est hyper précieux, c'est notre quotidien. Bah, c'est déjà, c'est un petit message, un petit appel de temps en temps, mais aussi, c'est des fois, c'est juste, quand on est dans le mal, même soulager, je te prends tes enfants, je t'apporte un plat, c'est vraiment des petits détails du quotidien, mais en fait, qui font vachement plaisir. Il n'y a pas besoin de grands trucs, mais juste une petite présence, un petit mot, une petite photo, un petit « je pense à toi », en fait. Comment tu vas ? Je pense à toi et comment tu vas ? Rien que ça. Et juste aussi même... moi, des fois, il y a plein « mais comment je peux t'aider ?» Mais en fait, juste, t'es là, je sens que t'es là. Et en fait, ça me fait du bien, quoi. Donc vraiment, toute cette bienveillance, en fait du bien. Par contre, juste pour l'entourage, alors, moi, j'ai eu quelques fois le cas, mais c'était pas des personnes ultra proches, mais c'est en discutant avec les gens. C'est juste que les gens fassent attention aussi. Ils disent des bêtises, mais vraiment des fois incroyables. Genre, moi, j'ai entendu « Ah, t'as de la chance, c'est un cancer du sein. » « Oh, mais quelle chance j'ai, merci !» Enfin, ouh, faites. Non, mais ça se soigne bien aujourd'hui. Oui, certes, par contre, tu sais pas que je suis passée par 10 mois de chimio où j'ai eu envie de mourir. Mon corps, il ressemble plus à rien, mais ça, tu le vois pas. Oui, certes, aujourd'hui, tu me croises dans la rue, je vais très bien. Mais en fait, les gens n'ont pas conscience de ce qu'on a dans la tête et ce par quoi aussi on est passé. Parce qu'une fois de plus, c'est pas qu'il y a une omerta, mais... il y a plein de choses aussi qui ne sont pas dites de manière transparente. Et du coup, bon, ça va, c'est un cancer du sein. Genre, on a entendu, aussi, j'ai des copines qui disaient ça, genre, elles ont de la radiothérapie, pas de chimio. Elles ont dit, oui, bon, ça va, t'as pas de chimio, ça va, c'est pas un cancer, quoi. Non, mais en fait, si, ça reste un cancer, ça reste hyper agressif. Et c'est pas parce que t'as pas de chimio que tu vis pas avec cette épée de Damoclès, que t'as pas peur de la récidive, que t'as pas... Ouais, donc voilà, des fois t'as des...
Il n'y a pas d'échelle de souffrance et d'échelle de bien-être. Voilà, effectivement. Et du coup, la meilleure des choses, comme tu dis, c'est d'être là, d'écouter, ouais. D'entendre.
Être présente, juste, je suis là, je pense à toi, quoi. Je suis avec toi et je pense à toi. Rien que ça, déjà, ça fait beaucoup.
Ah, super, merci beaucoup, beaucoup Maëlle.
Bah, merci Morgane.
Je te souhaite le meilleur pour les années à venir.
Oui, j'espère aussi.
Le meilleur à tous les niveaux, voilà. Dans ton corps,
merci.
Dans ta tête, dans ton cœur. Vraiment le meilleur avec ta famille, avec tes enfants évidemment, et puis avec toi.
Merci, voilà. Moi je le souhaite à toutes les femmes aussi, et j'espère que tout le monde sera épargné par ça. Et qu'on arrive un jour à éradiquer tout ça. Mais voilà, en attendant qu'on ait le vaccin magique, enfin voilà, l'autopalpation, faire attention, prendre soin de soi et profiter de la vie.
Profitons de la vie. Merci,
Maëlle. Merci beaucoup, Morgane.
Je vous le disais au début de cet épisode, le dépistage précoce est capital. On sait que seulement la moitié des femmes concernées se font dépister. Alors allez-y, mesdames, n'attendez pas. Si vous avez plus de 50 ans, la mammographie est recommandée tous les 2 ans. Et dès 25 ans, la palpation par un professionnel de santé est recommandée une fois par an. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à envoyer cet épisode à vos amis, mamans, sœurs, tantes, pour que le dépistage ne soit plus un tabou. Un grand merci à Alexis pour cette nouvelle bande-son. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Et si vous souhaitez échanger, eh bien je vous donne rendez-vous sur Instagram morgane.moncorpsetmoi. À très bientôt. Une semaine après l'enregistrement, Maëlle a reçu une mauvaise nouvelle. La biopsie qu'elle avait réalisée le jour de notre conversation a révélé des cellules cancéreuses du côté sain, celui où elle avait réalisé une mastectomie de prévention. Elle n'en sait pas encore plus à ce jour, elle attend de connaître le nouveau protocole, mais elle a souhaité garder cet épisode pour toutes les femmes qui sont dans le même cas qu'elle. On vous envoie beaucoup de force et d'amour, les filles.